Et c'est le journal de Claire Flochel. Bonjour Claire.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. C'est l'une des grandes réformes sociales du quinquennat, celle des retraites. Le haut commissaire rend ses préconisations ce matin. Les 42 régimes actuels devraient être remplacés par un seul système de retraite à points. Explication d'Anne-Laure Chouin dans ce journal. 10 ans après le crash du Rio Paris, le parquet de Paris demande à ce qu'il y ait un procès pour Air France, mais pas pour Airbus. À l'origine du crash, il y a le gel qui a déréglé les mesures de vitesse de l'appareil.
À la une également ce matin de l'actualité, l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, déclarée urgence sanitaire mondiale, une épidémie qui a fait plus de 1700 morts dans le pays en un an.
L'Organisation mondiale de la santé lance cette alerte après la mort d'une personne à Goma, à la frontière avec le Rwanda. Et puis le Cambodge ne veut plus servir de poubelle aux pays occidentaux. Le pays a décidé de renvoyer 1600 tonnes de déchets aux États-Unis et au Canada. À quoi va ressembler le nouveau système de retraite voulu par Emmanuel Macron? Réponse tout à l'heure. Le haut commissaire en charge du dossier, Jean-Paul Delevoye, présente ses recommandations dans quelques minutes aux partenaires sociaux d'abord, qu'il a consulté pendant 18 mois, puis au Premier ministre qui doit présenter un projet de loi d'ici la fin de l'année. Une réforme qui concerne tous ceux qui sont nés à partir de 1963. Un système plus universel par points qui met fin aux différents régimes spéciaux et qui donne les mêmes droits pour chaque euro cotisé. En pratique, ça a l'air simple, mais plusieurs points continuent de susciter des interrogations à leur choix.
Réformer un système de retraite, même pour le simplifier, est chose ardue. En faire la pédagogie en évitant que des polémiques ne viennent brouiller le message, c'est encore plus compliqué. C'est ce que s'apprête à faire Jean-Paul Delevoye, convaincre les partenaires sociaux que cette réforme n'est pas faite pour faire des économies, mais bien pour pérenniser un système qui soit à peu près aussi généreux que l'actuel, tout en protégeant son équilibre à long terme. Aujourd'hui, les retraites en France coûtent 14 points de PIB. Ce poids ne devrait pas diminuer. Les cotisations retraite, qui représentent 28% des revenus bruts, devraient également rester stables. Mais les très nombreux régimes de retraite vont fusionner en un seul, dans lequel donc 1 euro cotisé donne droit à 1 point de retraite. Fini le montant de la pension basé sur les 25 meilleures années de salaire. Ce système, selon les penseurs de la réforme, avait tendance à favoriser les salaires les plus élevés. Dans le nouveau système, le montant de la retraite sera calculé en fonction d'un nombre de points. Ce qui pose plusieurs questions. Quelle sera la valeur donnée à ce point? Sur quoi faut-il l'indexer? Les inspirateurs de la réforme proposent une indexation sur le salaire moyen, seule façon, selon eux, de garantir une stabilité des pensions à long terme. Par ailleurs, est-il vraiment nécessaire dans ce nouveau système de définir un âge de départ à la retraite? N'est-ce pas plutôt un nombre de points limite à partir duquel on obtiendrait un montant de pension suffisant, par exemple 75% de son dernier salaire? Avec cette conséquence, l'âge de départ à la retraite va automatiquement, progressivement et assez lentement reculer à mesure que l'espérance de vie va augmenter.
Anne-Laure Chouin. Et Jean-Paul Delevoye devrait s'inspirer du modèle suédois en la matière, un système généralisé de retraite par points. Louise Baudet, là-bas, c'est en place depuis 20 ans, mais ce n'est pas forcément plus égalitaire.
Obligatoire, universel et sur le papier aussi simple que le montage d'un meuble en kit. Premier étage de la retraite à la suédoise, la pension publique perçue par tous les assurés. Chacun dispose d'un compte individuel où il accumule des droits en cotisant. Le montant touché au moment de la retraite dépendra des points accumulés, mais aussi de l'âge de départ, de l'espérance de vie moyenne et de la conjoncture économique. Deuxième étage, une retraite complémentaire souvent versée par l'entreprise. Et troisième étage, une retraite par capitalisation via l'abondement d'un fonds de pension. Chacun pouvant en temps réel consulter sur son ordinateur le nombre de points dont il dispose et le montant correspondant. Système idéal? Pas vraiment. Le montant des pensions a globalement baissé. 53% du salaire de fin de carrière aujourd'hui contre 60% en 2000. Par ailleurs, l'espérance de vie n'augmente pas pour tout le monde. Les cols blancs sont donc favorisés. Enfin, toute la carrière compte désormais et non plus seulement les 15 dernières années d'activité, ce qui pénalise les carrières morcelées.
Précision signée Louise Baudet.
Au cœur d'une polémique depuis une semaine sur son train de vie, François de Rugy a parlé de soulagement hier au lendemain de sa démission. Il a aussi évoqué une erreur regrettée et payée au prix le plus élevé et le plus cruel.
C'était lors de la passation de pouvoir avec Elisabeth Borne au ministère de la Transition écologique. Et après cette passation, il y a désormais 18 femmes et 16 hommes dans l'équipe d'Édouard Philippe. 17 si on compte le Premier ministre. C'est une première dans l'histoire de la Ve République. Rosalie Lafarge.
Dans le premier gouvernement de la Ve République, une seule femme, une secrétaire d'État. Il a fallu attendre l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en 1974 pour qu'une femme occupe un ministère de plein exercice, celui de la Santé, incarné par Simone Veil. La première véritable percée des femmes, si l'on peut dire, se fait en 1995, après l'élection de Jacques Chirac. Son premier ministre, Alain Juppé, nomme alors 12 femmes, surnommées les Juppettes, soit 28% du gouvernement. Sous la cohabitation avec Lionel Jospin, ça grimpe à près de 40%. Moitié moins après la réélection de Jacques Chirac en 2002, mais depuis, une constante augmentation. De 23 à 36% de femmes sous Nicolas Sarkozy, de 45 à 50% sous François Hollande, et entre 47 et 51% donc sous Emmanuel Macron. Mais si les femmes sont aujourd'hui plus nombreuses que les hommes au gouvernement, la gente masculine reste majoritaire au poste de ministre de plein exercice, et bien minoritaire du côté des secrétaires d'État. Contrairement à ses deux prédécesseurs, Elisabeth Borne n'est d'ailleurs pas ministre d'État, un titre plus symbolique qu'autre chose, mais qui donne une place particulière dans l'ordre protocolaire. En même temps, depuis son élection, Emmanuel Macron a nommé 4 ministres d'État. Gérard Collomb, François Bayrou, Nicolas Hulot et François de Rugy, tous ont démissionné.
Rosalie Lafarge. Un procès pour Air France, mais un non-lieu pour Airbus. Voici donc les réquisitions du parquet de Paris. 10 ans après le crash du vol Paris-Rio, 228 morts dans l'océan Atlantique en juin 2009. Les sondes pitot de l'avion, un A330, avaient gelé. Florence Turmes.
C'est le givrage en vol des sondes de vitesse qui constitue le point de départ de la catastrophe. Mais depuis le début, l'enquête a donné lieu à une bataille d'experts pour établir les responsabilités dans l'enchaînement qui a conduit au crash. Aujourd'hui, le parquet retient l'insuffisance d'informations et de formation des pilotes qui se sont trouvés désorientés. Autrement dit, la responsabilité potentielle d'Air France, mais pas celle d'Airbus, malgré les conclusions de l'un des rapports d'expertise, s'indigne Alain Jakubowicz, l'avocat de l'Association des familles de victimes.
Moi, je peux vous dire que pour les familles de victimes, et j'ai du mal à les contredire, on veut protéger Airbus. Air France, il y a bien longtemps que l'État s'en soucie pas beaucoup, et je crois que c'est un autre débat. Quant à Airbus, dans le contexte actuel, notamment de la guerre contre Boeing, et Boeing ayant ses difficultés, eh bien, pour les familles de victimes, je ne dis pas qu'elles ont raison, mais en tout cas, elles y pensent très fort. On dit on ne peut pas s'exposer à un procès qui mettrait en cause la responsabilité d'Airbus, ce fleuron de l'économie nationale et européenne dans le contexte actuel. Ce que le parquet propose, c'est un demi-procès. C'est inacceptable.
Les familles de victimes ont encore un mois pour faire valoir leurs observations face à ces réquisitions du parquet et tenter d'obtenir un procès en correctionnel à la fois pour Air France et Airbus. La décision finale appartient maintenant au juge d'instruction chargé du dossier.
Florence Turmes. 3 ans après la mort d'un jogger en Bretagne, sa famille porte plainte. Elle accuse l'État et les collectivités locales d'être responsables de la prolifération d'algues vertes sur le littoral où cet homme de 50 ans est mort. Le lien avec ces algues n'a jamais été officiellement établi. L'autopsie n'avait été pratiquée que plusieurs jours après. France Culture est d'ailleurs retournée en reportage en baie de Saint-Brieuc sur la commune d'Illion la semaine dernière, la même où le corps de cet homme a été retrouvé en 2016. Eh bien, l'endroit est toujours recouvert d'algues vertes en putréfaction, sans aucune pancarte pour alerter sur le danger du lieu. Ce qui choque profondément maître François Laforgue, l'avocat de la famille Auffray, la famille du jogger.
C'est un scandale. Si c'est toujours pas signalé, c'est un scandale. C'est précisément ce sur quoi nous avons alerté la mairie d'Illion et la communauté d'agglomération. La zone est identifiée comme étant une zone dangereuse depuis maintenant très longtemps. Le jogger est décédé précisément à l'endroit où on avait retrouvé mort des dizaines de sangliers il y a quelques années. Donc il y a une situation qui doit maintenant justifier des mesures efficaces de la part des autorités publiques. On ne peut pas laisser la situation perdurer comme on l'a fait depuis 50 ans. L'action engagée par la famille de ce jogger est non seulement symbolique pour voir reconnaître la responsabilité à la fois de l'État dans sa gestion du problème des algues vertes, mais également des collectivités locales qui n'ont pas pris en charge ce problème des algues vertes et n'ont pas signalé le danger aux promeneurs. Et puis également pour obtenir une indemnisation des préjudices subis, puisque la situation de la famille, comme vous pouvez l'imaginer, a été considérablement bouleversée par le décès du mari et père.
Et il y a un peu plus de 10 jours, un autre homme est brutalement décédé à quelques kilomètres de là, dans les Côtes d'Armor, en baie de Morlaix. Un jeune ostréiculteur de 18 ans dont on attend toujours les résultats de l'autopsie. Là aussi, les algues vertes sont le principal suspect. 1700 morts en un an face à l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la santé décrète l'urgence sanitaire mondiale. Une mesure exceptionnelle déclenchée 4 fois seulement dans le passé. À Genève, Jérémy Lanche.
La découverte d'un cas d'Ebola dans la grande ville de Goma, à la frontière avec le Rwanda, semble avoir convaincu l'OMS. Relever le niveau d'alerte doit permettre aux pays de la région de mieux se préparer à une possible contagion. Mais pas question, dit l'agence, de fermer les frontières. La décision est inutile et même dangereuse, selon le patron de l'OMS, Tedros Ghebreyesus.
La fermeture des frontières pourrait avoir des conséquences désastreuses dans la lutte contre Ebola. Cela pousserait les personnes à traverser les frontières de manière informelle, sans être contrôlé, avec le risque que la maladie se propage encore plus. Le temps est venu pour la communauté internationale de se montrer solidaire avec la population de la RDC et pas de lui imposer des mesures punitives et contre-productives qui ne feraient qu'isoler le pays.
L'OMS dément avoir déclaré Ebola urgence de portée mondiale pour récolter des fonds. Il est vrai que l'argent et le personnel manquent cruellement sur le terrain, mais si des pays donateurs ont utilisé jusqu'à présent cette excuse pour ne pas contribuer à la lutte anti-Ebola, a prévenu le patron de l'OMS, alors ils ne pourront plus le faire. Très critiqué depuis le début de la crise il y a un an pour son inaction, la France vient tout juste de nommer un envoyé spécial pour Ebola. Il s'agit d'Yves Lévy, ancien patron de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. La France dit soutenir les associations présentes en RDC, mais sans détailler sa participation financière.
Les précisions de Jérémy Lanche. Au Japon, un énorme incendie s'est déclaré cette nuit dans un important studio d'animation à Kyoto. Il y a au moins un mort et des dizaines de blessés. La police soupçonne une origine criminelle. L'Asie suffoque sous les déchets des pays occidentaux et refuse de devenir la poubelle du monde. Le Cambodge annonce le renvoi de 70 conteneurs, 1600 tonnes de déchets plastiques vers les États-Unis et le Canada. Nathanaël Charbonnier, le Cambodge suit ainsi l'exemple de ses voisins.
Le Cambodge rejoint en effet la Malaisie, le Vietnam, la Thaïlande, autant de pays qui, après avoir accueilli à bras ouverts les déchets du monde, ont décidé les uns après les autres de stopper ce genre d'importation encombrante et polluante. En réalité, c'est la Chine qui, en 2017, avait été la première à dire stop aux déchets papier et plastique. Il faut dire qu'il y a quelques années encore, le pays à la Grande Muraille importait plus de 7 millions de tonnes de déchets. Le chiffre est tombé à 1,5 million en 2018. Et comme la nature à horreur du vide, le marché s'est alors déplacé dans les autres pays de la région. Et quand on sait que chaque année, on produit près de 350 millions de tonnes de plastique, il y a en effet de quoi s'inquiéter. La tendance est donc au retour à l'envoyeur. Dans le cas du Cambodge, les conteneurs devraient retourner aux États-Unis et au Canada, en espérant qu'il n'y ait pas de perte en route, car tout le monde sait que l'océan aussi déborde de sacs et déchets plastiques, et que contrairement aux gouvernements asiatiques, l'océan, lui, n'a pas la possibilité de se défendre et de se faire entendre.
Nathanaël Charbonnier. Il a fait rêver et pleurer aussi des millions d'enfants dans les années 90. 25 ans plus tard, Le Roi Lion revient sur grand écran, sorti hier au cinéma. Cette nouvelle version est en image de synthèse, mais a été tournée par une équipe traditionnelle de caméramen au sein d'un monde de réalité virtuelle en 3D. Ça vaut bien quelques explications de Théo Conscience.
Équipée de casques de réalité virtuelle, l'équipe de tournage du Roi Lion a pu se déplacer à l'intérieur du film, comme dans la savane africaine.
Le principe, c'est utiliser des outils de jeux vidéo pour faire un film.
Pierre Zandrovitch est réalisateur. Il travaille sur un projet avec une technologie similaire.
Une fois qu'ils mettent le casque en réalité virtuelle, ils se déplacent sur le plateau. Ils peuvent absolument tout changer en temps réel. Donc par exemple, à un moment, il y a une scène avec une horde de hyènes. Ils vont dire, ah bah, il y a un peu trop d'hyènes. Donc ils ont des contrôleurs dans les mains, comme des manettes de jeux vidéo. Ils vont supprimer des hyènes. Ou bien ils vont les prendre et la déplacer de 2 mètres, 3 mètres.
Dans ce monde virtuel, le réalisateur a les mêmes outils que dans le cinéma classique. La caméra est équipée de capteurs et le cinéaste peut choisir où il la pose, la mise au point ou la luminosité.
Au lieu d'être devant un ordinateur, il rentre directement dans le film et c'est beaucoup plus grisant pour le réalisateur de pouvoir retrouver en fait tous les réflexes qu'il a dans le film classique. Là, finalement, il a la liberté d'un film classique avec l'avantage de la virtual production, c'est-à-dire qu'il peut tout modifier en temps réel.
Le monde dans lequel évolue l'équipe de tournage n'est pas aussi élaboré que celui que l'on voit à l'écran. Il est enrichi et perfectionné a posteriori. Beaucoup de progrès restent à faire, mais Pierre Zandrovitch voit dans cette technologie une opportunité de convergence entre différentes formes d'art.
On arrive à un moment où en fait le cinéma, le jeu vidéo et même peut-être le théâtre sont en train de converger, ils sont en train de créer une nouvelle forme d'art.
Une nouvelle forme d'art qui doit permettre toujours plus de réalisme. Le réalisateur du Roi Lion, Jon Favreau, a même déclaré vouloir que son film donne l'illusion d'un documentaire animalier.
Reportage signé Théo Conscience. Le temps est voilé aujourd'hui sur une grande partie de la France. De la pluie est attendue toute la journée dans le nord-ouest du pays. Soleil partout ailleurs. Ce matin, les températures sont comprises entre 11 et 18 degrés.